les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour, nous sommes trois élèves du dispositif relais à Évreux, Alexis, Louis et moi-même, Sohan. Nous avons choisi de vous parler du thème de l'astronomie. Dans un premier temps, nous allons écouter un micro-trottoir venant du centre-ville de Évreux. Et pour finir, nous allons écouter l'interview d'un passionné d'astronomie qu'on remercie de nous accorder ce temps.
Pour cela, nous allons commencer par écouter les micro-trottoirs.
Pour vous, qu'est-ce qu'est l'astronomie ?
J'en sais rien.
C'est la science des étoiles.
D'accord. Et pour vous ?
Ouais, c'est l'étude du ciel.
L'astronomie, c'est l'étude des planètes. Voilà, du système solaire. Est-ce que je me trompe ou pas ?
L'astronomie, c'est l'étude des étoiles et du ciel.
Tout à fait ça.
C'est les étoiles et les planètes qu'on ne connaît pas.
D'accord.
C'est un univers qui est composé de plusieurs... ça peut être des planètes, des astres, etc.
Pour moi, c'est l'étude justement... c'est l'étude de tout ce qui est genre en dehors de notre Terre, du coup l'étude des objets stellaires, par exemple soit sur l'expansion de l'univers, soit par exemple sur la formation des planètes, ou soit alors sur comment on pourrait par exemple trouver d'autres planètes habitables, ou par exemple étudier la naissance et la mort des étoiles.
L'astronomie, c'est l'étude des astres.
L'astronomie,
c'est ça.
Je suis un ancien astronome, et donc c'est les études de l'espace essentiellement, et la fabrication des étoiles.
C'est l'étude des astres et du cosmos, de l'ensemble des planètes et de l'univers.
Alors, que peut contenir une galaxie pour vous ?
Des planètes et des soleils,
des comètes et des astéroïdes.
Des étoiles, des planètes.
Que peut contenir une galaxie ? Une galaxie peut contenir un système solaire, donc un soleil, et puis des planètes qui orbitent autour. Et peut-être, en l'occurrence chez nous, c'est une voie lactée, mais j'imagine que c'est infime par rapport à tout ce qu'il y a dans l'univers.
Il y a de la poussière interstellaire,
ouais.
Des astres et du gaz.
Oui, d'accord. Ok.
Une galaxie ? Plusieurs systèmes solaires, enfin plusieurs systèmes d'étoiles.
C'est juste.
En fait, une galaxie, c'est aussi une constellation d'étoiles mortes.
C'est ça.
Je sais pas, des étoiles peut-être ?
Un peu ?
Comme je l'ai dit, ça peut être des astres, ça peut être des étoiles, ça peut même être des espèces que l'on connaît pas, parce que il y a plusieurs galaxies, on ne les a pas toutes explorées. Voilà.
Moi, je dirais du coup plusieurs planètes. Ensuite, il y a sûrement des étoiles. Ensuite, il doit sûrement y avoir plusieurs soleils aussi. Je dis, il n'y en a sûrement pas qu'un. Enfin, en soi, le nôtre, en soi, c'est qu'une étoile parmi tant d'autres. Il y en a sûrement des plus grandes. Et puis, je dirais qu'il y a sûrement aussi... des astéroïdes aussi.
Les planètes, des étoiles.
Une galaxie, c'est un amas d'étoiles qui sont différentes formes et qui tournent dans l'espace et qui partent d'un point et s'éloignent du centre de l'univers.
Des poussières interstellaires, du gaz, des astres aussi. Il y a aussi des poussières interstellaires, des astres et du gaz.
Qui on peut trouver dans une galaxie.
J'ai pas compris.
On peut aussi retrouver de la poussière interstellaire, des astres et du gaz dans une galaxie.
Il y a tout dans c'est l'espace. Ça. Donc il y a de la poussière, il y a des étoiles qui sont comme la Terre, peu brillantes, et il y a des étoiles beaucoup plus brillantes à tout étage et tout âge depuis l'univers.
Merci.
Et tout bouge, y compris
la
Terre, c'est évident, tout le monde le sait, mais toute notre galaxie.
Eh ben, une galaxie, ça contient des étoiles, des poussières, des planètes, à peu près des divers types d'étoiles, même des trous noirs, tiens. Voilà ce que ça comporte, une galaxie. Alors une galaxie, c'est plutôt en spirale. Ça fait des grands bras, comme ça, un peu courbes, qui tournent sur eux-mêmes. Voilà.
On a fait des recherches et c'est exactement ça. De quoi serait constituée la planète idéale ?
Pour moi ?
Oui.
De quoi serait constituée la planète Terre ? Il me semble que c'est la planète idéale quand même, parce qu'il y a tout ce qui constitue la planète crée de la vie, et il me semble que c'est assez rare quand même dans l'univers, à moins qu'on connaisse...
Pour vous, c'est quoi la planète idéale, genre ce qu'il pourrait y avoir
Est-ce qu'il y a dedans ? Peut-être dans la littérature, comme les chroniques martiennes de Ray Bradbury, qu'on puisse aller sur Mars qu'on puisse peut-être communiquer avec les autres habitants, s'il y a des êtres vivants ailleurs, quoi.
La Terre. Voilà, on retrouve de l'air, de l'eau, de quoi vivre, de l'oxygène, de l'air. Voilà.
D'accord. Merci de m'avoir répondu, madame. C'était un plaisir.
Que des gens bien.
De l'eau, des gens sympas, de la musique.
Pas les hommes, déjà, une première réponse. Évidemment, de l'eau, des végétaux, des animaux, des prédateurs, et aussi tout un écosystème. Une planète idéale, après, comment dire, des formes de vie, effectivement, des formes d'intelligence, mais peut-être sans le capitalisme, ce serait mieux, pour plus d'entraide, et le système de la planète Terre, il est pas mal quand même, avant qu'il soit dégradé par l'homme.
La planète Terre, de l'eau.
Quelque chose d'autre ?
Des personnes.
Gentils, méchants ?
Des gentils et des méchants.
Merci, t'as une idée ?
Déjà sûrement de l'eau. Enfin, sûrement de l'eau déjà, c'est important. Il faut aussi les atomes essentiels à la vie, du coup, comme l'hydrogène, le carbone.
Quelque chose qui serait peut-être utile pour l'humanité plus tard, parce que il y a des ressources que l'on a besoin et on les aura pas toujours sur Terre, quoi. Ce serait bien de les avoir dans l'atmosphère.
La planète idéale. Planète de paix.
Planète de quoi ?
De paix.
C'est quoi ?
La paix.
Paix ?
La paix. Qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de...
Ah, la paix, là.
La paix, oui.
Merci.
De rien.
Au revoir. Qu'est-ce que pourrait être la planète idéale selon vous ? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir dessus ?
Quel point de vue ?
Tout, genre, qu'est-ce qu'on pourrait y trouver sur cette planète ? Une planète qui serait pour vous idéale, quoi.
Dans l'espace.
C'est ça. Une planète pour vous qui serait idéale pour l'adaptation.
À ma connaissance, la Terre, c'est la meilleure pour le moment.
C'est ça.
On commence à étudier Mars. Et quand les robots trouvent des choses, bon, pour le moment, c'est pas encore pour la vie.
C'est ça.
Voilà. Alors, planète idéale, avec des hommes sages.
Des femmes.
Oui, enfin, hommes avec un grand H. Ah. Ah ben, évidemment, évidemment. Ça tombe sous sens. Voilà, avec beaucoup merci. De sagesse. Et puis, ça serait une planète sans guerre. Avec, voilà, ce que ça serait une planète idéale. Mmh. En fait, ça dépend. Finalement, la planète, elle dépend moins de la nature que de la nature des hommes, qui sont belliqueux par nature. Voilà. Bon, voilà ce que c'est. En fait, il ne faut pas. Parce que la Terre peut être une planète idéale si les hommes étaient moins cons. Hein ? On peut dire ça comme ça quand même.
On peut.
Voilà. C'est...
Bon, bah, merci.
Mais je vous en
bonne
prie.
Bonne journée.
Bah, elles sont vachement sympas, vos questions.
Merci, monsieur. Bah, tout de suite, on va retrouver un passionné d'astrologie. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous entendez bien, Nicolas ? Bonjour à vous, oui, merci.
Oui, bonjour, j'entends très bien. Et vous, ça va, vous m'entendez bien ?
Oui, 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 on fait, voilà, on est bien en volume. Merci, je vous laisse en compagnie de nos camarades, Louis et Alexis.
Bah, du coup, bonjour, on va enchaîner sur la toute première question. Pouvez-vous nous présenter, pouvez-vous vous présenter ?
Alors, donc, bah, je vais me présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Virzinski, je suis passionné d'astronomie depuis très longtemps et je suis président du club d'astronomie Polaris qui est basé à Saint-André-de-l'Eure. Voilà.
D'accord, merci.
Pour la deuxième question, comment votre histoire avec ce sujet a-t-elle commencé ?
Alors, en fait, mon papa était et est toujours... toujours tout le monde, passionné d'astronomie, donc c'est pour dire Virzinski. Et c'est mon papa qui m'a transféré le virus de l'astronomie. Donc en fait, lui, quand il était tout petit, il avait déjà observé le Spoutnik qui tournait, le petit point blanc qui se baladait dans le ciel et qui tournait autour de la Terre, donc il y a très très longtemps. Et il a toujours fait de l'astronomie. Et moi, quand j'étais jeune... vers les 15-16 ans, et ben, j'allais le soir avec lui pour observer, etc. Bon, après, j'ai eu mes études, et puis après, je suis mis à ce qu'on appelle l'astrophotographie. C'est-à-dire qu'en fait, ben, mon dada, c'est surtout de prendre des photos, des vidéos d'objets du ciel, et puis des planètes et de la Lune. Voilà.
D'accord, merci.
Pouvez-vous nous donner votre définition de l'astronomie ?
Alors l'astronomie, pour moi, c'est une science. C'est une science qui permet de comprendre les astres et l'univers. Alors on est sur de la multicompétence, c'est-à-dire qu'on va de l'infiniment petit, on part de la particule. Souvent, voilà, donc il y a des notions de physique. Il y a également pas mal de notions de mécanique céleste avec par exemple quelque chose qui régit l'univers qui s'appelle la gravité. Et puis on va jusqu'à l'infiniment grand avec des objets qui évoluent à des vitesses phénoménales ou bien des objets qui sont à des distances de nous qui sont astronomiques. C'est le cas de le dire. Voilà. Voilà quelques. Après moi je suis pas scientifique de formation, mais voilà la définition que je pourrais donner.
Bah, merci monsieur.
Comment étudie-t-on l'astronomie et quel outil utilise-t-on ?
Alors comment on étudie l'astronomie ? Bah, comme je viens de le dire avec un. Alors ce sont quand même. Quoi, l'astronomie, c'est vraiment un domaine extrêmement vaste. Puisque par exemple, on va avoir des scientifiques qui vont être spécialisés sur l'étude du Soleil. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas longtemps, on a eu de magnifiques aurores boréales le 10 mai dernier. Et en fait, tout ça, c'est dû à une activité solaire extrêmement forte. Voilà. Et donc, il y a des scientifiques qui travaille pour comprendre comment s'est formé le Soleil, comment il vit, comment il évolue, pourquoi il a des cycles d'activité de 11 ans, et il y a encore des questions qui se posent. Et ensuite, on a d'autres scientifiques qui sont spécialisés dans d'autres domaines, par exemple dans la cosmologie. Alors, la cosmologie, c'est comment est créé l'univers, donc là on est sur des dimensions un petit peu plus éloignées, comment s'est créé l'univers, voilà, quelles ont été les 15 premières secondes de la création de l'univers, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, 13,7 milliards d'années plus tard. Voilà. Et donc on a des scientifiques qui sont spécialisés dans ce domaine-là, mais il y a aussi des outils. Alors il y a des outils qui sont notamment des télescopes ou des radiotélescopes, ça dépend du domaine, en tout cas de la longueur d'onde qu'on veut étudier. Voilà, par exemple, le radiotélescope, on sera sur un type d'onde particulier. Par exemple, le James Webb télescope, il est plus sur des longueurs d'onde infrarouges. Et puis on va avoir d'autres télescopes qui vont étudier les astres dans la lumière visible, donc visible avec notre œil. Ou par exemple, il y a des astronomes amateurs qui vont faire des études ou des spectres pour savoir de quoi sont composées les étoiles ou des nébuleuses planétaires, par exemple. Et donc tous ces télescopes, il y a eu une évolution technologique phénoménale, on va dire, depuis les années 80-90, où l'homme a développé sur Terre des télescopes qui permettent de voir de plus en plus loin, parce qu'ils sont de plus en plus grands. Voilà. Donc on a par exemple aujourd'hui le plus grand télescope optique au sol, donc qui se trouve aux Canaries, qui fait, si je ne dis pas de bêtises, 10 mètres de diamètre. Et là, l'ESO, donc une structure européenne, est en train de construire un télescope de 30 mètres de diamètre. Donc ça, c'est très très grand. Donc avec un très très grand pouvoir collecteur de lumière et un télescope qui devrait être opérationnel dans 2-3 ans. Voilà, ça c'est pour les engins qui sont au sol. Alors le problème des engins au sol, c'est qu'ils ont un truc à traverser qui s'appelle l'atmosphère. Alors l'atmosphère, quand on regarde le ciel, ça brouille un peu les étoiles de temps en temps, quand il y a ce qu'on appelle de la turbulence. Voilà. Donc c'est quand vous regardez par exemple des étoiles et qu'elles clignotent, c'est que vous avez beaucoup de turbulence. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des satellites autour de la Terre pour s'affranchir du problème de l'atmosphère. Donc c'est par exemple le fameux télescope spatial Hubble qui fait, parce qu'il fonctionne toujours 2,40 m de diamètre, si ma mémoire est bonne, et surtout le télescope James Webb, le James Webb télescope, là, qui a été lancé il y a 2-3 ans maintenant, et qui fait plus de 6 mètres de diamètre et qui nous envoie des photos absolument magnifiques du ciel, mais aussi et surtout des résultats scientifiques extrêmement intéressants. Voilà, j'espère avoir répondu à la question.
Ouais, vous êtes complet, merci Nicolas.
Si c'est trop complet, je peux faire plus court.
Non, c'est très bien, on boit vos paroles et on est en plein dans le sujet. Je vous en prie, livrez-vous.
Par exemple, quelle est la matière qu'on peut trouver le plus dans la Voie lactée?
Alors, la matière que l'on trouve le plus, on va dire, j'irais même au-delà, dans l'univers, parce que la Voie lactée, en fait, c'est un ensemble qui s'appelle une galaxie, dans laquelle on se trouve. Il faut savoir quand même, dans notre galaxie, les scientifiques estiment qu'il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Voilà. Donc dans cet ensemble dont nous faisons partie, les scientifiques nous disent qu'il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers, des galaxies comme la nôtre, il y en a des milliards. Voilà, pour vous donner quelques chiffres un peu astronomiques. Et la principale matière qu'on va retrouver partout dans cet univers, c'est l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est le premier élément le plus simple du tableau des éléments, le tableau de Mendeleïev. Donc par exemple, notre Soleil, il est composé à 99,5% d'hydrogène. Et en fait, notre Soleil, c'est une méga centrale nucléaire qui passe son temps à fusionner les atomes d'hydrogène pour former de l'hélium, voilà, et ainsi de suite, et transformer les éléments de plus en plus lourds. Voilà. Donc, sachant que le Soleil a été créé il y a à peu près 4 milliards d'années et qu'il est à peu près à la moitié de sa vie. Voilà. Donc l'élément essentiel, c'est de l'hydrogène. Donc, sachant que les étoiles dans l'univers sont des machines à transformer cet hydrogène en élément de plus en plus lourd. Voilà, donc on va passer l'hydrogène, l'hélium, après, et puis du fer également. Donc, ces éléments de plus en plus lourds vont aller vers le centre. Voilà comment ça se passe et quel est l'élément le plus commun dans l'univers. L'hydrogène, bah, voilà. Merci.
Peut-on trouver d'autres formes d'oxygène dans l'univers ?
La réponse est oui. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des télescopes qui ont la capacité de faire ce qu'on appelle des spectres. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'en fait un spectre. Donc, on prend une source lumineuse, on met un spectre, on décompose la lumière et on en déduit les composants. On a notamment le James Webb télescope qui est équipé de spectrographes qui permettent de définir la composition des sources lumineuses et notamment de ce qu'on appelle des exoplanètes. Alors, j'y reviendrai peut-être plus tard. Les exoplanètes, en fait, ce sont des planètes qui tournent autour d'autres soleils que le nôtre. Mmh. Vous voyez, déjà, on est loin de chez nous.
Ouais. Hein.
Et aujourd'hui, le James Webb Télescope, il a trouvé de l'eau et de l'oxygène sur d'autres exoplanètes. On se rend compte, alors moi je me rappelle quand j'étais gamin, je lisais les journaux spécialisés en astronomie nucléaire, et à l'époque, les scientifiques, dans les années 80, disaient « Poisson, il y a de l'eau que sur la Terre, il n'y en a nulle part ailleurs dans l'univers ». Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y en a un peu partout. Il y en a sur la Lune, dans le sol, il y en a sur Mars, où il y en a eu, mais en tout cas, il y en a sous forme de glace et dans le sol. Il y a également des lunes de Jupiter où il y a de l'eau. Alors, c'est pas forcément sous la forme de l'eau qui coule du robinet, hein, parce que des fois, on est à moins 200 degrés, moins 240, donc on serait plus sous forme de glace. Mais il y en a. Et je crois même, mais je m'avance peut-être, que dans les queues de comètes, donc ces astres qui gravitent autour du Soleil, dans les queues des comètes, ils en ont trouvé également.
Y a-t-il potentiellement d'autres formes de vie dans l'univers ?
Alors là, je ne vais pas m'avancer, mais ce qu'il faut savoir, je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure, les exoplanètes. Les exoplanètes, comme je disais, ce sont des planètes qui tournent autour d'autres soleils que le nôtre. Voilà. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, avec les instruments qu'on a, la première exoplanète a été découverte en 1995. Sur le télescope d'un mètre 80 de l'Observatoire de Haute-Provence par un Suisse. Voilà. Donc ça, c'était en 1995. C'était la première découverte flagrante que, oui, il y a bien une planète qui tourne autour d'un autre soleil que le nôtre. Donc, c'était quand même une découverte assez, assez importante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai regardé hier soir à 22h, le compteur était à 5742 exoplanètes. C'est-à-dire qu'en moins de 30 ans, avec les instruments qu'on a, on est passé de 0 exoplanète à 5742. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces exoplanètes ont été observées, prouvées et confirmées, alors qu'elles sont dans notre banlieue proche. C'est-à-dire qu'on est entre 5 et 40 années-lumière. Donc 40 années-lumière, c'est vraiment notre banlieue proche. Il faut savoir que, par exemple, on va dire la longueur de notre galaxie qui est la Voie lactée, elle fait 100 000 années-lumière de longueur. Donc quand je vous dis qu'on voit une exoplanète à 40 années-lumière, c'est vraiment tout proche de chez nous, quoi. Hein. C'est vraiment la banlieue. Donc après, chacun pourra en tirer les conséquences qu'il souhaite. Moi, je me dis quand même que avec tous ces soleils qu'il y a dans la Voie lactée, dans l'univers, toutes ces exoplanètes, il y a peut-être, c'est fort probable, de la vie ailleurs. Et sur ces 5700 exoplanètes, qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a seulement une petite dizaine qui sont des planètes telluriques, c'est-à-dire qu'elles sont dures, c'est-à-dire que ce ne sont pas des géantes gazeuses, comme Jupiter, Saturne, Uranus ou Neptune, mais des planètes telluriques comme Mars ou la Terre, voilà. Et il y a une petite dizaine de planètes qui aujourd'hui sont des planètes telluriques et qui sont dans des secteurs, en tout cas des distances de leur étoile, qui font qu'elles ne sont pas trop proches, donc pas trop chaud, ou pas trop éloignées, pas trop froid. Donc, des planètes où potentiellement il peut y avoir de la vie, mais là je ne m'avance pas et chacun sera libre de faire les calculs de probabilité.
Merci en tout cas pour votre avis.
En vrai, est-ce qu'on pour vous on a tout découvert dans l'univers?
Alors pour moi non. Je me permets de dire non de manière assez affirmative. En ce sens que pour faire de l'astronomie depuis quelques dizaines d'années maintenant. En fait, on se rend compte que toutes les semaines, je dis bien toutes les semaines, il y a des découvertes. C'est-à-dire, en permanence, on a des scientifiques qui travaillent sur des sujets, et toutes les semaines, il y a une découverte sur une lune de Jupiter ou de Saturne, ou voilà. Des découvertes aussi qui sont faites de par les observations, par exemple, comme le James Webb Télescope, donc le James Webb Télescope, c'est en fait avec son grand diamètre, c'est une machine à remonter dans le temps, parce que plus il collecte de lumière, plus il voit loin, et donc plus il voit loin, mais il remonte dans le temps. Voilà. Aujourd'hui, le James Webb Télescope, il arrive à voir des objets qui ont été créés 800 millions d'années après ce qu'on appelle le Big Bang, donc la création de l'univers. Voilà. Je vous rappelle, aujourd'hui, l'univers, il est daté, il a été créé il y a 13,7 milliards d'années. Et notamment, le James Webb, il a été lancé pour justement remonter dans le temps et essayer de se rapprocher de la création de l'univers, même si, voilà, c'est pas possible. Il a fait des observations, il y a encore pas très longtemps, où en fait, d'après la théorie, il aurait dû voir des galaxies, ce qu'on appelle des proto-galaxies, très peu formées, très peu massives, etc. Or, il a observé des galaxies extrêmement bien formées et plus lourdes que prévues. Donc vous voyez, il n'y a rien d'acquis, et en fait, on en apprend tous les jours. Et ça fait 30 ans que ça dure, enfin moi ça fait 30 ans que je fais de l'astronomie, ça fait 30 ans que ça dure, et je pense que dans les années et les décennies qui vont venir, bah, ça va continuer, on va continuer à apprendre, parce qu'on a encore plein de choses à apprendre, même si, quand on voit les connaissances en astronomie qu'on avait dans les années 70-80, et puis, aujourd'hui, il y a une évolution phénoménale. Sachant que, on va dire que les premiers grands télescopes de 5-6 mètres de diamètre, notamment le Mont Palomar, ce sont des télescopes qui n'ont été créés, entre guillemets, qu'il y a 100 ans. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi une supernova?
Alors, une supernova... Une supernova, en fait, c'est une étoile supergéante qui explose. Une supernova, c'est ça.
Mais pourquoi elle
explose ? Alors, dans l'univers, vous avez différents types d'étoiles qui ont été répertoriées par les scientifiques. Et il y a ce qu'on appelle des étoiles supermassives, des étoiles géantes, et qui... Donc c'est pareil, hein. L'étoile, elle se crée à partir d'un nuage d'hydrogène. Voilà, après, il va y avoir accrétion, gravité, etc. Il va y avoir la naissance, la vie. Et à la fin de cette vie, cette étoile, donc là l'échelle de temps, c'est milliards d'années. Voilà, quand même le savoir. Donc ça va être 5, 6, ensuite ça dépend de la taille de l'étoile. Donc, quand elle arrive à la fin de sa vie, elle va se transformer en ce qu'on appelle en géante rouge. Voilà. Qui dit très très grande étoile dit une étoile supermassive. Ça c'est hyper important puisque les supernovas ne concernent que les étoiles supermassives. Et à la fin de sa vie, elle s'effondre sur elle-même et elle expulse les couches externes, ses couches externes, voilà, dans une explosion qui est absolument phénoménale et qui émet également ce qu'on appelle des rayonnements gamma, donc ce qu'on appelle les sursauts gamma. Et ce qui nous permet aujourd'hui, avec certains instruments au sol et également autour de la Terre, certains satellites et télescopes, d'identifier, aujourd'hui on sait mesurer ces sursauts gamma, et quand on mesure des sursauts gamma, c'est qu'il y a eu soit collision entre des étoiles, soit explosion d'une super d'une étoile supermassive. Et donc cette supernova explose, et ensuite, après l'explosion, on aura ce qu'on appelle un trou noir.
Merci beaucoup, Nicolas. D'ailleurs, je me permets, est-ce que il y a moyen de voir un exemple, parce que vous disiez que ça, vous sembliez dire que c'était exceptionnel à voir, que c'est incroyable. Est-ce qu'on peut retrouver, grâce aujourd'hui à notre ami Internet, des exemples? Est-ce qu'il y a des vidéos? Est-ce que ça a été filmé? Est-ce qu'on peut, on peut retrouver des images? Et y a-t-il, par exemple, avant les deux dernières questions, Nicolas, un site référence ou deux sites référence qui nous permettent de mettre un peu des images sur vos propos?
Alors, on a par exemple, alors il y a ce qui a été vécu dans le passé. Donc il y a des témoignages notamment du qui proviennent de Chine, où en fait il y a une étoile, une supernova qui a explosé, alors de mémoire c'est en 1054. Alors 1054, qui a donné depuis naissance à ce qu'on appelle la nébuleuse du crabe. Et les Chinois, voyez, ont vu l'éclat, une nouvelle étoile extrêmement brillante dans le ciel, une nouvelle étoile extrêmement brillante. En fait, c'était l'énergie libérée par l'explosion. Et les Chinois disent, écrit, il y a des écrits, que cette supernova était même visible de jour. Oui. Voilà, donc c'est pour vous donner un exemple de la luminosité que ça pouvait représenter. Voilà, ça c'est un exemple assez exceptionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, il y a deux ou trois mois, il y a eu une supernova dans un bras d'une galaxie qu'on pouvait observer avec un télescope. Moi-même, avec mon télescope, j'ai fait une image de la galaxie et j'ai repris la même image de cette galaxie un an plus tôt, et on voit qu'il y a un nouveau point brillant. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a un an, à un endroit, il y avait une étoile peu brillante, et on voit, il y a quelques mois, que cette étoile peu brillante est devenue extrêmement brillante, c'est-à-dire qu'elle a, en termes de taille et de luminosité, elle a fait x10 ou x20, et les scientifiques ont confirmé que c'était une supernova, donc une étoile massive qui explose. Voilà.
Merci. Un site internet quand même à qui permet de choper des clichés, enfin voilà, je sais qu'il y a plein de documentaires sur la question, il faut fouiner, on peut mettre en moteur de recherche des mots-clés, mais vous avez un site référence, il reste deux questions, mais juste un site référence peut-être, Nicolas? Pas forcément
Comme ça, je n'en
non, mais je vous en prie. Bon, on sera curieux, on cherchera avec les mots-clés là, et les éléments que vous nous avez partagés. Je redonne la parole, pardon, à Louis et Alexis.
Okay. Pour vous, quelle est la découverte la plus folle qu'on a fait? Plus exceptionnelle?
Pour vous, hein, ça n'engage que vous, mais au moins, voilà, on voit bien que vous êtes passionné, ça nous importe.
La découverte, alors c'est compliqué.
Ou l'une d'elles.
Ce qui m'a vraiment frappé, quoi, ça a été ce que je vous disais tout à l'heure, en 95, la découverte de la première exoplanète. Voilà, parce que ça montre que l'astronomie, c'est aussi une science qui nous permet de comprendre d'où on vient. Ça, c'est pour moi, c'est assez central. D'où on vient, où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va demain. Voilà. Et cette découverte en 95 de la première exoplanète, c'est quand même une preuve que on n'est peut-être pas seul dans l'univers. Mmh. Et qu'en fait, il y a une probabilité assez forte, importante, voilà, chacun jugera, que ailleurs, peut-être dans l'univers, il y a une forme de vie, alors peut-être complètement différente de la nôtre, un stade plus avancé ou moins avancé. Voilà. Donc pour moi, ça c'est vraiment la découverte pour moi la plus importante, mais sachant que il y a quand même, comme je disais tout à l'heure, en permanence de nouvelles découvertes importantes qui font avancer la science et l'astronomie quasiment tous les jours.
Si on a bien écouté dans l'échange, vous avez évoqué qu'aujourd'hui, enfin ou plutôt hier soir, vous regardiez une forme de compteur. On est curieux de savoir sur quel site on peut trouver ça. Vous parliez de celle de 95 à découverte, on a plus de 5000 maintenant d'exoplanètes.
5700, et c'est pas fini. Voilà. Et sachant, il faut savoir aussi aujourd'hui que Alors, il faut avoir un télescope d'un diamètre de 30 ou 40 centimètres aujourd'hui. On a des amateurs qui s'amusent.
Qui contribuent aussi, ouais.
Ah, qui contribuent, qui font des mesures. Voilà, moi-même, avec. J'ai fait une mission pendant une semaine à l'observatoire de Saint-Véran, donc à côté de Briançon. On a un observatoire à 3000 mètres d'altitude où il y a des télescopes de 50 cm de diamètre. Et avec d'autres collègues astronomes, on a fait des mesures d'exoplanètes. C'est-à-dire qu'on pointe le télescope sur une étoile et on mesure son flux lumineux. Et on voit qu'en fait, le flux lumineux diminue quand la planète, l'exoplanète, passe devant l'étoile. Voilà. Et quand l'étoile, quand la planète repasse sur le côté de l'étoile, donc le flux lumineux remonte. Voilà. On mesure des courbes comme ça, et ensuite on les envoie à des scientifiques qui sont spécialisés dans les exoplanètes. Voilà, ce qu'on appelle des coopérations astronomateurs professionnels. Voilà.
Merci, bravo de votre investissement.
Pour cette dernière question, c'est une question un peu plus personnelle. Quel est votre rêve le plus fou dans l'astronomie ?
Mon rêve le plus fou ?
Ouais. Oh. Y en a-t-il un ?
Oh, bah, des.
Piquer la tenue de Thomas Pesquet puis partir là-haut ?
Non, c'est pas mon truc.
Je vous ai coupé.
Non, moi, mon truc, c'est plutôt, par exemple, de découvrir une supernova ou de découvrir une exoplanète, par exemple, un truc comme ça, ou une comète, une exoplanète, un truc comme ça, ou une supernova. Ça peut être rigolo, voilà, on va dire ça comme ça. Et là, il faut beaucoup de chance.
Bah, il en faut, mais il faut aussi du temps que vous semblez passer et donner à votre passion. Et c'est vrai que vous vous donnez plus de chance tout de même en observant nos astres comme vous semblez le faire.
Bah, merci de nous avoir répondu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et c'était un vrai plaisir de vous avoir interviewé.
Merci. Ouais, pardon.
Pour moi aussi, c'était un vrai plaisir. j'espère que nos jeunes se passionneront. Un peu plus, voire beaucoup, pour l'astronomie.
Ouais. Voilà. D'ailleurs, Nicolas, avec votre association, il y a des interventions milieu scolaire, ou si je me trompe pas.
Hein. On peut à la demande.
On rappelle les coordonnées, le nom, s'il vous plaît.
Alors, donc, l'association s'appelle le Club d'Astronomie Polaris. On a un site internet, hein, quand on tape sur un moteur de recherche Polaris Saint-André-de-l'Or, on retrouve notre site internet. Et on se réunit chaque premier et troisième vendredi du mois, donc dans une petite salle qu'on a à disposition, dans le gymnase à Saint-André-de-l'Or. Voilà.
Super. Et ben, on sait qu'on... Et à quelle heure, si on veut frapper à la porte ?
À 20h30.
Merci.
À 20h30. Voilà.
Nicolas, vous avez été au top, on vous remercie grandement parce qu'en plus vous étiez au travail, vous avez pris des minutes pour répondre aux questions des garçons et c'était très très agréable, on a appris plein de choses qu'il va falloir peut-être qu'on réécoute pour bien vraiment prendre et digérer ces informations, mais c'était ô combien intéressant. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Nicolas, sincèrement. Les gars, franchement, le monsieur au top, hein. On est d'accord.
Ouais. C'est clair.
On est d'accord. Merci Nicolas, on vous souhaite une agréable journée. Au plaisir, on rappelle, hein, vous faites partie de cette association, le Club Polaris de Saint-André-de-l'Eure. Merci de nous avoir consacré du temps. On vous salue, on vous remercie encore et on vous souhaite une bonne journée. Bye bye.
Merci à vous, bonne journée.
Au revoir.
C'était
grave. Bon les gars, qu'est-ce qu'on en pense là ? C'était impressionnant quand même, je sais pas qui. Ouais, toi t'enlèves ton casque.
Bah, je sais pas.
Bah non, on discute.
Ah, c'est fini. Oh, c'était bien.
Non, c'est pas fini, on discute.
Non, mais genre, on...
Bah oui, on discute.
Non, mais...
Bah non, on discute.
Non, mais comment ça s'appelle ? Ça tourne encore ?
Bah oui, ça tourne encore.
Par contre, le casque, il y a un problème parfois.
Ouais, des fois, bah, ça... Ouais, une fois sur deux, une oreille sur deux, je suis désolé.
Non, mais ça coûte...
Deux secondes. Le monsieur travaille à côté, on l'a laissé tranquille. Bon, à chaud, là, comme ça... Ouais. Vous vous rendez compte, 95, c'est récent ça, 1995.
C'est clair.
Ça veut dire 5 et 24, il y a 29 ans, on se rendait compte qu'il y avait d'autres exoplanètes. Et là, on est à plus de 5000, parce qu'on a fait évoluer les moyens et tout pour le découvrir. Ça, c'est incroyable.
Sachant qu'il y en a d'autres. Hein,
ça évolue tout le temps, tout ce qu'ils ont.
Incroyable. Les garçons aussi, les micro-trottoirs, ça avait été une bonne expérience pour vous ?
Ouais. Ouais, franchement, c'était pas mal. Hein.
Ouais.
C'était
pas mal. surpris par les réponses, les avis des gens.
Il y en avait, ils connaissaient rien, il y en avait, c'était des connaisseurs depuis longtemps.
Ouais. Ouais, mais sur l'astronomie, c'est pas donné à tout le monde quand même.
C'est ça.
Toi, ça a été une bonne expérience, Swan, par exemple, les micro-trottoirs, d'aller voir des gens que tu connais pas, tac, tu dégaines le micro.
Non, franchement, j'ai bien aimé.
Ouais.
C'était pas rien, vraiment, c'était bien. Même si on se prenait des vents, en fait, finalement, c'était...
Oh, il y a eu quelques vents, mais il y a eu surtout beaucoup de gens qui ont pris le temps aussi.
Oui, beaucoup de gens qui ont pris le temps de répondre.
On les remercie.
Ouais. Ouais, merci aussi de votre attitude, parce qu'il voilà, y a des personnes qui avaient quelques difficultés, il y a des soucis de santé pour s'exprimer, qui pourtant avaient très envie de répondre. Vous avez été très respectueux, courtois, et vous avez géré. Je crois qu'il y a une petite conclusion. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier, Swan, Alexis et Louis. Je ne dis pas de prénoms sur de bêtises sur les prénoms. Je vous remercie de votre investissement. C'est un agréable moment, votre compagnie. On va saluer les auditeurs et puis on va rappeler ce qui vient de se passer, s'il te plaît.
Bah, pour rappel, nous sommes trois élèves du Dispo Relais, Louis, Swan et moi, Alexis. Et nous avons parlé de l'astronomie. Nous avons fait des micro-trottoirs. Puis nous avons terminé sur une interview avec un passionné. Merci de nous avoir écoutés avec la radio Principe Active. Bonne journée.
Merci à vous les gars, big up à Marie, big up à cette dernière session du dispositif relais, c'était ô combien sympathique, franchement je vous applaudis.
Bien les gars.
Ouais, bravo, et même Marie a signé, elle a bien raison. Voilà, ça a bien bossé. Merci, 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 merci.
C'était impressionnant quand même.